Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, il est 14h, donc on va commencer cette table ronde mise sous le thème donc de sous et sur la peau. Alors d'ailleurs, ce titre mystérieux, il va surtout être question donc du marquage, que ce soit le marquage technologique ou même surtout, je pense que ça va être très central dans notre sujet aujourd'hui, le tatouage. Et pour parler de cette thématique, avec nous il y a Mélanie Fazi, donc qui est écrivaine, et on peut citer comme dernier ouvrage paru « Nous qui n'existons pas », qui n'est pour le coup pas de la fiction. C'est une sorte d'autofiction plutôt, on pourrait décrire ça comme de l'autofiction. Et durant cette table ronde, donc, Mélanie nous fera part de son témoignage vis-à-vis de ses propres tatouages. Il y a également Xavier Mauméjean, romancier, essayiste. En guise de dernier ouvrage paru, on peut citer « La société des faux visages ». Et puis il a été également très présent sur les tables rondes dédiées au transhumanisme. Donc ce sera juste peut-être l'occasion, puisqu'on parle de marquage, de faire un petit détour du côté des vérités transhumanistes dédiées aux modifications du corps. Et puis on a également avec nous Sarah Doc, novelliste surtout, on peut citer Technofaerie, et traductrice également, même, et journaliste, avec des dernières traductions en 2018, hein, il me semble même...
Dernière traduction parue, L'Arche de Darwin de James Morrow et Machine de guerre de Paolo Bacigalupi. Voilà.
Et donc pour introduire notre sujet, on pourrait peut-être commencer par citer brièvement une série télévisée qui peut incarner notre thématique, c'est Blindspot. Alors c'est pas de la science-fiction, mais c'est intéressant vis-à-vis de notre thématique. Est-ce que les personnes qui connaissent Blindspot ici peuvent lever le doigt pour voir si on doit résumer rapidement l'histoire? Ouais. En fait, c'est tout simplement.
Il faut.
On va en parler du coup tout de suite avec Sarah Doc, justement, parce que c'est vous qui m'en avez parlé en préparation de cette table ronde. À la limite, je vous laisse peut-être résumer l'histoire et son intérêt.
L'histoire, au départ, est très très simple. Il y a une espèce de sac de voyage en plein milieu de Times Square. C'est la panique. On vide la place. Un des mineurs arrive et le sac bouge. La fermeture carré clair s'ouvre et en sort une femme nue, entièrement tatouée, qui a aucune mémoire de son identité ni de son histoire. Et toute son histoire, toute son identité va se révéler petit à petit à la lecture de ses tatouages, qui vont petit à petit révéler des crimes, révéler une espèce de machination. Mais, et permettre aux gens du FBI de découvrir des tas de choses, mais uniquement à la lecture de sa peau.
Est-ce qu'on peut considérer donc que cette personne, pendant tout un temps, elle n'existe que par sa propre peau ?
Tout à fait. Elle n'existe que par sa peau et par le marquage de sa peau, l'encre sur sa peau, puisqu'on a totalement effacé sa mémoire et donc son identité. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle a fait, elle n'a aucune idée d'elle-même, à part ce qui est inscrit sur sa peau.
Mais donc le personnage principal n'a pas choisi d'être marqué par ses tatouages, enfin, sans rentrer dans les détails pour ne pas spoiler évidemment, mais je dis ça pour en venir donc à Mélanie Fazi qui, elle, a choisi d'être tatouée, de se marquer en un sens. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer quelle a été votre démarche pour vos deux tatouages ?
Ça a été un peu, alors c'est un peu long à expliquer, mais c'est intéressant qu'on commence par Blindspot et qu'on commence par cette notion d'histoire, parce que quand on a eu des échanges pour préparer la table ronde et que du coup on a un petit peu, enfin moi je structure ma pensée dans ces échanges, je me suis aperçue ce qui revenait beaucoup en essayant d'expliquer pourquoi on choisit de se faire tatouer, c'était, il y avait deux choses, la notion d'identité et la notion d'histoire. C'est pas systématique, ça peut être une démarche qui est strictement esthétique, mais dans beaucoup d'échanges avec des tatoués, il y a ça, il y a je veux marquer une étape, je veux marquer quelque chose de mon histoire, c'est quelque chose pour dire mon identité à moi-même ou la dire aux autres, mais il y a beaucoup cet aspect-là. Et en tout cas, je m'aperçois que moi, dans ma propre démarche, c'est quelque chose qui est assez central. Et donc, j'avais promis que j'allais expliquer plus ou moins. Je sers de modèle d'exposition. Et c'est le moment de la partie effeuillage. J'ai choisi la tenue spéciale tatouage exprès. Alors, je m'embrouille un peu quand j'en parle, parce que des fois, je parle de 3 tatouages alors que je n'en ai que 2 qui sont visibles là, parce que le 3e, je fais la semaine prochaine. Donc, je suis vraiment en plein dans cette démarche. Donc ici, en 2001, il y a déjà pas mal de temps, j'ai fait une petite salamandre tribale qui est très, très sommaire. En 2014, il s'est quand même passé 13 ans entre les deux, j'y suis retournée, et de fil en aiguille, un tatouage qui devait être petit est devenu très, très gros. Je me suis fait tatouer un corbeau entouré de feuillage qui est ici. Et le 3e, je verrai si j'en parle ou pas. C'est un fantôme, il est déjà là, mais il n'est pas encore là. Et je dirais que c'est compliqué d'expliquer une histoire, parce qu'en fait, il y a un lien qui m'est venu, et également dans les échanges. C'est que je vois très fort un lien entre la façon dont vient une idée de tatouage ou un projet et la façon dont vient une idée pour écrire une histoire. C'est-à-dire, c'est pas je me pose à ma table et tiens, je vais décider que je vais me faire tatouer ou tiens, je vais décider d'écrire. C'est quelque chose qui me prend aux tripes, en fait. Et je sais. À un moment donné, je sais que j'ai un tatouage à faire, j'ai une histoire à écrire. C'est presque la même démarche, en fait.
Moi, j'ai mon totem
aussi, oui.
Qui est tatoué dans ma peau. J'ai une araignée de 20 cm sur 20 environ, dont les crocs sont des plumes pour écrire. Et c'est, oui, ça vient du ventre, ça vient des tripes. Et c'est le moyen d'inscrire son identité, sa manière de se voir soi dans son propre corps. Et c'est quelque chose qui est très ancien. Les plus grands tatoués, c'était les peuples du Pacifique. Et les tatouages du Pacifique sont très particuliers parce qu'il y a des tatouages ethniques, des tatouages claniques, des tatouages familiaux et des tatouages personnels. Donc chaque tatouage raconte l'histoire de la personne qui les porte. C'est pourquoi en 98-99, les peuples de Java, de Bornéo et tous les peuples océaniens se sont battus pour qu'on n'utilise pas et qu'on n'expose pas un certain nombre d'images de tatouages personnel ou clanique qui avait une signification magique et historique pour leur peuple.
Xavier, est-ce que vous avez un tatouage dont vous voudriez parler peut-être aussi ?
Alors non, je n'ai pas de tatouage, mais on peut parler d'œuf sans en pondre. Donc, j'ai pas de tatouage pour les raisons que Mélanie a exposé, j'ai pas ressenti ça un jour, j'ai pas trouvé. Je suis pas évidemment pas contre ce qui sera complètement absurde, même la phrase est idiote, mais non, j'ai pas trouvé ou il m'a pas trouvé. Voilà.
On parlait de Blind Spot, mais il y a un autre film avec tatouage qui parle à peu près de la même chose, c'est Memento. Ce film qui est construit à l'envers et où la personne, pour se souvenir, qui n'a plus de mémoire immédiate, pour se souvenir systématiquement, se tatoue, se souvenir de lui-même.
C'est un film qui vous a marqué aussi, Mélanie ?
Bah c'est drôle, tout à l'heure on parlait de Blind Spot que je ne connaissais pas, et c'est la première chose qui m'est venue en entendant le résumé, c'est tiens, ça me revient Memento, que j'avais pourtant oublié. C'est intéressant comme
aussi,
cette image marquante.
Sur un thème assez proche, John Doe, série qui a disparu trop vite, où on trouve un bateau pêcheur trouve un homme nu avec un tatouage. Et ce qui est curieux, c'est que le tatouage n'est jamais signifié. Bon, la série s'est arrêtée trop tôt, mais moi j'étais fasciné parce que tout de suite je l'ai reconnu. C'est le cercle brisé qui est en fait le symbole kurde de Satan. Et il y avait quelque chose là dans cette image qui devait être certainement très fort si la série avait continué et qui n'a jamais été évoqué. Donc il avait son cercle brisé sur le côté. Et qui est en fait non pas un symbole sataniste, mais un symbole de la religion d'Iblis chez les Kurdes.
Il y a la série Bourne de Ludlum, où c'est aussi un homme qui se réveille amnésique avec un tatouage, qui a donné aussi la série de bande dessinée 13, exactement sur le même thème. Mais il y a La Talente avec Michel Simon, qui est couvert de tatouages, et c'est des tatouages de marins. Et il y a Le Tatoué, avec ce tatouage de Modigliani.
C'est une histoire vraie.
Qui est une histoire vraie, où on veut vendre, en fait, la peau peinte, la peau ancrée du tatoué, en fait. Donc c'est quelque chose qui revient énormément au cinéma, mais aussi en littérature.
Est-ce que, Sarah, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la présence du tatouage dans la société, le rôle du le rôle des marquages. Est-ce que entre les origines de notre civilisation, il y a 2, 3, 4000 ans, et aujourd'hui, il y a eu une évolution?
Oui, alors, il y a quand même le tatouage qui est, ou le marquage, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, qui est important et qui répond à cette question, qui est Cain, quand même, le premier criminel, et encore, est-ce qu'il est criminel, ça se discute, le premier meurtrier, en tout cas, de l'histoire de l'humanité, Dieu, Yahvé, lui met une marque sur le front. Et cette marque est probablement vivante, d'ailleurs, puisqu'elle est censée bouger. Et elle traduit déjà toute une approche qui va être celle de l'Occident par rapport au marquage et au tatouage qui va être négative. Et qui est tout le paradoxe du tatouage dans le cas de Cain, qui est de montrer pour pas voir, puisque c'est parce qu'il a cette marque sur le front qu'il faudra le mettre à l'écart, l'exiler, ne pas lui parler, etc. Donc c'est tout le paradoxe du tatouage. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cain, dont le nom Caïn signifie le jaloux, l'aîné, il y a une tribu qui s'appelait les Caïnites qui méthodiquement se faisait cette marque dont on aurait bien savoir ce que c'était d'ailleurs.
Mais il y a le marquage d'infamie, il y a la fameuse fleur de lys pour les assassines et les prostituées, en fait. On a les Pictes, qui étaient souvent entièrement tatoués de bleu, pour une raison très poétique. C'est que même si on leur prenait tout sur le champ de bataille, ils n'étaient jamais nus. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, d'ailleurs, dans les tribus du Pacifique. Mais pendant longtemps, oui, c'était soit le marquage au fer rouge, le tatouage vient surtout d'Asie. Le fait d'ancrer la peau vient surtout d'Asie. On voit les Yakuza, par exemple, au Japon, on voit l'Océanie. Et puis, ça a été les marins, ça a été les pirates, les prisonniers et les militaires, essentiellement. En sachant, mais aussi, par exemple, les croisés. Beaucoup de croisés revenaient de Jérusalem avec une marque, souvent au fer rouge, qui marquait leur passage par Jérusalem. Et pendant très longtemps, c'était vraiment des castes. Une caste de tatoués, c'était absolument pas dans la population en général. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces tatouages existent encore. Les flash bronze, par exemple. Il y a une rose, il y a énormément de flash, ce qu'on appelle des flashs, c'est donc les dessins qui sont à la base des tatouages, qui ont parfois 60, 80 ans et qui existent encore aujourd'hui. Les tatouages ont été interdits par Napoléon. Les tatouages sont interdits aux officiers, mais pas aux soldats. Le soldat va se tatouer pour nier l'uniforme, nier l'uniformité. Alors que le gang se tatoue pour s'identifier, pour uniformiser sa représentation. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, mais ce n'est pas seulement le tatouage. Par exemple, les marins, la boucle d'oreille du marin, la boucle d'oreille en or du marin, est là pour payer l'enterrement en cas de naufrage. À chaque fois, il y a une raison. Il y a donc la plupart des cas de marquage, que ce soit en piercing, en tatouage, en branding, etc., il y a une raison, il y a une explication. Et le tatouage s'est généralisé, en fait, très tard. Dans les années 50-60, le tatouage a commencé à sortir des prisons, des bateaux, de l'armée.
Avant d'en venir à l'actualité du tatouage, vous venez de parler, il y a quelques secondes, de la raison des tatouages. Mélanie, vous avez parlé il y a quelques minutes de l'intention derrière le tatouage, un besoin transcendant. Ouais. Vous mettriez quel qualificatif sur ce besoin spirituel, social, autre chose?
Je crois que c'est très personnel en plus. Moi, dans mon cas, suite d'autres personnes, il y a quelque chose qui n'étant pas qui pourrait se rapprocher de quelque chose de spirituel sans être quelqu'un qui a une pratique ou un rapport au monde spirituel, mais quelque chose de très symbolique, effectivement. Pour moi, c'est symbolique, le mot qui vient plutôt. C'est le rapport au symbole, et je pense que le rapport aux images, qu'on retrouve beaucoup de tatouages chez des gens qui sont créatifs par ailleurs, écrivains, ou qui dessinent, qui peignent, etc., je pense que c'est pas un hasard. C'est un rapport à comment traduire par des images des choses qui sont des concepts ou des moments où c'est une traduction de quelque chose dans un autre langage. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, plus. Et un côté social, oui, parce qu'il y a clairement le rapport, comme on disait tout à l'heure, l'identité, ce qu'on marque d'identité aux autres. Même si je pense que ça a changé avec le temps, parce que quand je parle avec des personnes de la génération de mes parents, ils ont eu du mal à se faire à l'idée du tatouage, parce que pour eux, c'est associé à des gens de mauvaise vie. Il y a vraiment un côté, socialement, justement, le tatouage avant, c'était... Même quand j'ai fait celui-là, je travaillais en hôtellerie, j'ai dû faire très attention qu'il ne dépasse pas de ma manche, parce que ma patronne m'aurait tuée si elle l'avait vu. Enfin, voilà, il y a encore de... Je pense que ça a changé, ça, quand même. C'est en train de devenir vraiment plutôt à la mode et plutôt quelque chose qu'on voit un peu partout, je pense.
Et la mode actuelle est assez amusante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tatouent et qui se tatouent par coup de tête. Tout d'un coup, ils ont 50 euros, ils vont chez un tatoueur, ils vont choisir un flash et ils vont le mettre. Et ils vont en rajouter, en rajouter, en rajouter, sans penser à une unité, sans penser à ce que leurs tatouages se répondent les uns aux autres. Et chez certaines personnes, ça donne un petit peu l'impression... Vous voyez les graffitis sur les portes des toilettes ? Parce qu'il y a une rose, il y a une encre, il y a tous les tatouages traditionnels.
Pas que chez les jeunes, mais... je connais beaucoup d'adultes qui fonctionnent comme ça et ça finit par former quelque chose qui dit leur identité, en fait, je trouve.
Oui. Mais ça devient tellement mélangé qu'on a du mal à le lire. Parce qu'il y a ce manque d'unité, il y a ce côté coup de tête. J'ai envie d'un tatouage maintenant. Ce côté drogue du tatouage aussi, de la douleur et du marquage, qui fait que, oh, j'ai envie d'un tatouage, j'ai un peu de sous, je vais chez un tatoueur, je vais choisir un flash, n'importe un truc traditionnel ou le même que ma copine ou que mon copain, et hop, j'en rajoute un. Et il y a des modes dans les tatouages, systématiquement aussi. Pour l'instant, il y a beaucoup, l'une des grandes modes, c'est d'écrire sur la peau. Et ça donne parfois des choses assez amusantes. Ça brouille les messages, en fait.
On a l'impression. Ouais, tout dépend du sens qu'on y donne. Moi, ça ne me choque pas, justement, pour avoir des amis que j'ai vus, justement, se couvrir de tatouages sans rapport les uns avec les autres. Ça finit par être eux, vraiment. Et si je vois des photos, ils ne les ont pas, c'est ça qui me paraît bizarre. J'aime bien cette influence ensemble.
Je crois que quand c'est fini, ça dit quelque chose et le message est lisible. Quand c'est en cours, ça brouille un petit peu. Mais dans mon regard.
On a un peu l'impression qu'il y a une mode du tatouage en ce moment. Même l'émission très populaire Quotidien avait dit tout un prime au tatouage. Peut-être que ça sera un sondage à contre-emploi, tant pis, on essaye quand même. Qui parmi vous ici est tatoué pour ce... C'est beaucoup, quand même, c'est beaucoup. Comment vous expliqueriez cette mode de notre société ?
Une idée, ça, j'avoue. Il y a de plus en plus de tatoueurs. Il y a 20-30 ans, par exemple, sur Bruxelles, il y en avait 5. Aujourd'hui, il y en a 400. Il y a aussi le fait que pour s'ouvrir et être vraiment en conformité avec tout, des tatoueurs, des associations de tatoueurs, que ce soit en France ou en Belgique, par exemple, ont contacté les ministères de la Santé pour que le tatouage devienne, comment dire, pour que tous les instruments soient stériles, pour qu'il y ait vraiment une garantie de santé publique dans les studios de tatouage et de piercing. Il y a vraiment eu une volonté, à la fin des années 90, des tatoueurs, des pierceurs, de se mettre en conformité, de prouver qu'ils respectaient la santé et la sécurité de leurs clients. Et donc, il y a eu un engouement qui a aussi débuté avec ça, avec un nombre de plus en plus grandissant de conventions de tatouage, avec des concours, avec où on peut voir des gens se faire tatouer, où on peut voir le travail en cours. Et je crois que ça fait partie des choses qui ont donné envie aussi de se faire tatouer. Et puis, c'est une manière, comme on disait, de se différencier et de s'affirmer. Et je crois que dans l'espèce de conformité ambiante de la société, c'est devenu très important de s'affirmer, de s'identifier, de se différencier d'une manière ou d'une autre du reste des gens, de la foule, du voisin, de...
Puis il y a une autre chose aussi, parce que moi je distingue le vécu individuel qui est éminemment respectable et la mode, et la mode est peut-être beaucoup plus critiquable, mais là il y a une génération qui est fils ou petit-fils de punk, qui était fils de hippie, qui était fils de beatnik. Donc à part être agent de caisse à la BNP, je vois pas trop quelle peut être la provocation de cette famille. Les parents, les grands-parents l'ont déjà fait, donc il y a cette volonté, je parle de la mode, hein, du tatouage de mode, d'essayer d'aller au-delà, et même au-delà de l'au-delà, qui serait plus les implants, etc., qui serait une autre discussion. Mais moi, ce à quoi je suis sensible, c'est ce que dit Mélanie, qui est en fait une expérience intime, individuelle et symbolique. Ça, ça m'intéresse. La mode, bah, c'est la mode, quoi.
Mais les modifications, il y en a deux, il y en a plein. Il y a et c'est devenu courant se faire placer, par exemple, un aimant dans un doigt ou se faire placer des pas de vis dans la tête pour pouvoir porter des cornes. Aller chez un dentiste pour se faire des dents de vampire. C'est des modifications corporelles. C'est vraiment une maîtrise de son corps et de son identité. Ça, c'est dans le même ordre des choses, en fait.
Cette actualité du tatouage, Xavier, est-ce que c'est relié aussi à l'augmentation des velléités transhumanistes de modifier son corps ?
Alors, je pense pas du tout, absolument pas. Je pense que, comme ça a été remarqué bien et plusieurs fois, c'est une activité qui est aussi ancienne que le marquage chez l'être humain. C'est une expérience individuelle, symbolique. Quand elle est collective, elle est signe d'appartenance. Sarah a évoqué les Yakuza. Par exemple, les Yakuza, le Yakuza veut dire 937, 938. Et en fait, c'était un jeu de cartes, je l'évoquais hier, un jeu de cartes qui était pratiqué au 19e et 20e siècle, début 20e. Et si vous aviez 9, 8, 3 en main, vous aviez 20, donc vous aviez 0. Et comme c'était un jeu qui était pratiqué par la pègre, les prostituées, etc., la bourgeoisie japonaise a appelé, avec beaucoup de mépris, les gens, les yakuza, autrement dit les zéros, les nuls. Et par provocation, la pègre a dit « Ah oui, bah, puisqu'on est les yakuza, on va être les yakuza ». C'est pour ça qu'on oublie trop souvent qu'en principe, les yakuza ont ces trois cartes aussi, en dehors du ryu, du dragon. Ils ont ces trois cartes. Et donc, je ne pense absolument pas que c'est un rapport avec le transhumain, dans la mesure où, justement, il y a un vécu individuel, une mémoire intime, une expérience créatrice, artistique, elle-même individuelle. Je pense que c'est le plus petit dénominateur qui est la modification du corps. Mais dans ce cas, on pourrait dire, quand je vais chez le coiffeur, est-ce que c'est un rapport avec le transhumanisme ? Oui, si. Pourquoi pas, d'une certaine manière, oui. Il y a une base commune à toutes les activités transformantes de l'homme, c'est, on l'évoquait hier, c'est que on est dans un corps qu'on n'a pas choisi. Vous aimez bien faire lever les mains pour savoir qui a vu quoi. Qui c'est qui a choisi son corps en naissant ici ? Voilà, là, c'est un zéro total, on a réussi. Ben voilà, donc à partir de là, il faut se réapproprier son corps. Il y a quantité de façons. Hein. Il y a le col des Égyptiennes, des petites qui apprenaient.
Des boucles d'oreilles, des petites filles espagnoles.
Ben, bien sûr, oui. Moi, toutes mes sœurs, moi, je suis aux trois quarts espagnol. Dès qu'elles étaient nées, ou à peu près, ching-ching, voilà. Mais non, ça n'a pas de rapport avec le transhumanisme. Le point commun, c'est le corps, c'est tout. Et cette volonté de s'approprier le corps, après.
Je crois que Mélanie est d'accord avec ça. On en parlait avant cette table ronde, que justement, vous ne voyez pas de lien.
En fait, quand on m'a posé la question, au départ, c'était vraiment un échange. On m'a posé la question des puces, notamment, etc. Et est-ce qu'il y a un lien ? Et là, j'ai eu une espèce de blanc en me disant, les puces, je crois que je vois pas bien de quoi il s'agit. Je suis allée regarder. Et en fait, ma réaction, je pense, est assez parlante. Je suis restée devant à essayer de dire, mais c'est quoi l'intérêt de ce truc ? Et je pense que ça a répondu à la question. C'est que ça a certainement un intérêt, j'en suis persuadée, pour d'autres choses, d'autres gens. mais c'est pas du tout la même démarche. Enfin, ça m'a tellement pas parlé que je pense, alors que je suis fascinée par le tatouage et vraiment son esthétique depuis bien avant de le faire. Donc c'est, enfin, après j'en sais rien, je pose pas ma réaction à moi comme un absolu, mais j'ai trouvé ça assez parlant en fait.
Quand on voit dans la littérature de l'imaginaire surtout, alors pour les puces, etc., et c'est évidemment le cyberpunk, avec les prises neuronales, avec les modifications cybernétiques, etc., et il y a une appropriation du corps, il y a une appropriation de soi au travers de ces modifications, clairement. On peut voir, par exemple, les romans, la trilogie de Cuchiel, de Jacqueline Carré, où, en fait, c'est une caste de prostituées qui, pour racheter leur liberté, pour montrer le rachat de leur liberté, se font tatouer tout le dos. Et on voit, au fur et à mesure, apparaître la marque qui sera l'identité future de la femme libre qu'elle devient. Dans Libération de Becky Chambers, on rencontre une tatoueuse, une tatoueuse, un tatoueur, il, elle, et les deux, selon les moments, qui tatoue le mouvement, qui tatoue la lumière, qui peut utiliser énormément de techniques de l'avenir. Et la demande qui arrive, c'est le personnage principal qui est une intelligence artificielle à qui on a offert un corps et qui est en recherche de son identité. Et comprenant ce qu'est le tatouage, pourquoi les gens se tatouent, elle veut un tatouage. Et il y a d'ailleurs une page absolument magnifique dans ce roman qui explique pourquoi on se tatoue et qui se tatoue quoi. Et en sortant de l'imaginaire, il y a le superbe « Je te retrouverai » de John Irving qui raconte en fait l'histoire du tatouage moderne au travers d'un personnage féminin qui est tatoueuse et du héros qui est son fils qui lui est à la recherche de son père.
On parle en fait, vous parlez depuis tout à l'heure, c'est vrai, de ce côté intime hein, du tatouage qui le différencie justement, une démarche intime, transcendante qui le différencie des puces, du transhumanisme. Peut-être que ce qui serait intéressant, ce serait d'incarner cet aspect-là. Mélanie, peut-être que vous pourriez nous parler de l'un de vos tatouages, au moins nous conter si vous en avez envie, évidemment, parce que c'est intime, ce qui a poussé l'un de vos tatouages à exister.
C'est assez curieux, c'est que je dirais, depuis tout à l'heure, je parlais clairement du truc d'identité, et je dirais qu'ils sont le reflet, alors les trois, parce que le troisième arrive bientôt, sont différentes étapes d'un cheminement d'identité, qui ne trouvait pas forcément son nom sur le moment, mais d'une évolution personnelle, d'une libération par rapport à un certain nombre de blocages, de restrictions, etc. Et le premier, c'est très curieux, je me souviens d'avoir été une personne très, très timorée, timide, réservée, qui n'osait pas trop faire les choses, et qui était quelqu'un qu'on percevait comme, à l'époque c'était moins à la mode, quelqu'un qui n'oserait jamais se faire tatouer. Et je me souviens qu'un jour, j'ai formulé ce truc, maintenant j'en suis capable, donc je vais le faire. C'était pas la raison pour laquelle je l'ai faite, mais ça a été très important de marquer dans ma peau que j'ai assez changé pour être passée de quelqu'un qui n'osait pas à quelqu'un qui ose. Et disons, comme c'était une période de changement dans ma vie, j'ai voulu l'incarner. Alors pourquoi une salamandre, je ne sais pas. C'était un reptile, je le savais. J'ai écrit une nouvelle suite à ça qui s'appelle Serpentine. Il y a un mouvement, je pense, qui va de l'un à l'autre. Je sais pas où il est. Et le deuxième, qui était 13 ans plus tard, c'était une autre étape de cette évolution beaucoup plus loin, et où je m'étais encore libérée d'autres choses, et j'avais mis des mots un peu plus sur ces questionnements personnels, je dirais. Et ce qui est très curieux, c'est que j'ai su pendant un voyage, aux États-Unis, je voyais des oiseaux partout, et à un moment donné, c'était un oiseau. Encore maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi j'ai choisi un corbeau, par contre. Alors, je suis désolée, après, je rentre dans les détails peut-être un peu trop. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce tatouage, c'est pas tant l'histoire derrière, c'est comment le motif vient, et il vient vraiment comme je disais, quand des images s'associent pour créer quelque chose. C'était un oiseau. En fait, c'est intéressant, on dit, tiens, un oiseau. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme oiseau en tatouage? Il y a l'hirondelle. L'hirondelle, je trouve ça trop mignon, c'est pas ça. Il y a l'aigle, mais ça a ce côté très assuré, très, à mes yeux, très classique, c'est pas ça. Et le corbeau, il y avait ce petit décalage. Le corbeau, c'est cet oiseau qui est considéré comme, dans l'imaginaire populaire, comme maléfique, comme noir, comme quelque chose comme ça, et qui, à mes yeux, incarne plutôt une forme de sagesse, quelque chose d'un petit peu, une sagesse un petit peu décalée, je dirais. C'est, il y a le côté, il va bien avec la sorcière, il va avec tout ça. Et, bon, en plus, j'écris du fantastique, il y a Edgar Poe derrière, il y a je m'apprêtais à publier un texte, un recueil dans lequel il y avait un texte qui s'appelle L'arbre et les corneilles. Il y avait en plus ça, un texte qui parle de transmission d'une tante à sa nièce, et j'attendais la naissance de ma nièce. Enfin, il y a un moment où il y a tellement de sens qui s'imbriquent que voilà, c'est ça. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais c'est, en gros, c'est voilà. En 2001, j'étais cette personne-là. 2014, je suis cette personne-là, et bientôt, je serai la personne que j'aurai là sur le bras, en fait. Il y a vraiment ça, en fait.
Vous avez vous-même évoqué Serpentine,
oui.
Où justement les encres de tatouage sont surnaturelles, et vous venez de dire que oui. Vos tatouages vous ont créé en partie, ont modifié votre identité.
Je sais pas s'il la modifie. Il y a un truc qui m'est venu aussi en cours de route, c'est que j'ai trouvé presque un paradoxe, c'est qu'il marque des changements. Et je trouve intéressant que le changement étant quelque chose qu'on traverse toute sa vie et qui continue à, même le changement est mutant, j'ai envie de dire. Je trouve intéressant ce paradoxe de fixer un changement. C'est-à-dire, on le fixe, c'est un instantané. Voilà, je capture cette image maintenant, et plus tard ce sera ça, et plus tard ce sera ça, etc. Et Serpentine, c'était plutôt... Alors, là, je pars sur autre chose. C'était né suite à ce tatouage, j'ai eu envie d'expliquer comment ça se passe, en fait. Pas simplement la symbolique, mais tiens, comment ça se passe quand on va se faire tatouer, l'encre, le pistolet, tout ça. Et j'ai atterri sur cette idée d'un groupe de tatoueurs qui ont des encres aux propriétés un peu surnaturelles. Et ils vont les accorder à des clients qui viennent leur demander, mais avec des requêtes vraiment très spéciales. Et la condition pour qu'ils l'accordent, c'est qu'il faut que l'histoire soit intéressante. Donc les tatoueurs sont des collectionneurs d'histoire. Ils ont des cahiers avec l'histoire derrière chacun. Et chaque encre peut avoir une fonction d'effacer quelque chose ou de résoudre quelque chose. Il y a une histoire, une anecdote est donnée pour chacune des 5 encres à l'intérieur du texte. Et j'aimais bien, j'avais oublié, mais pour moi, il y avait cette notion d'histoire déjà qui était là.
On ressent un vrai lien chez vous entre... l'acte du tatouage et l'acte d'écriture, de création.
J'y avais jamais réfléchi avant, c'est là, en préparant cette table ronde, que je me suis aperçue que les deux s'entremêlaient, et quand j'ai essayé, parce qu'on m'avait dit que qu'on allait peut-être poser cette question de raconter l'histoire du tatouage, et quand j'ai essayé de me représenter ça, je me suis vue avec une idée d'histoire qui monte. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça, en fait. Et c'est aussi compliqué d'expliquer précisément l'histoire d'un tatouage que c'est compliqué de résumer un texte, parce qu'il y a toutes les thématiques entremêlées, c'est simplement, à un moment donné, tout s'assemble. Je ne peux pas le dire autrement. C'est voilà, c'est ça. C'est maintenant et c'est ça.
Moi, je voudrais parler d'un sujet qui est connexe, mais pas totalement, mais des tatouages. Par exemple, les enfants soldats en Afrique sont généralement tatoués de la marque de leur armée pour les marquer. Et il y a des chirurgiens esthétiques qui partent en coopération en Afrique pour libérer ces enfants de la marque de leur servitude. Comme il y a des chirurgiens maintenant qui vont réparer les femmes qui ont été excisées, dont on a modifié le corps contre leur volonté. Mais on peut parler aussi à ce moment-là de transgenre, parce que c'est aussi s'approprier son propre corps que de le changer.
Alors, pour parler de l'Afrique, justement, et d'une partie de la problématique qu'on n'a pas vue, mais que Sarah annonce... c'est le tatouage subi, pour le coup, qui fait que, loin de s'approprier son corps, en fait, on en est dépossédé, pour le coup. Et vous avez, par exemple, en Afrique, au Congo, dans l'ethnie Bamba, il y a un tatouage qui s'appelle... Enfin, c'est pas un tatouage, c'est un marquage qui s'appelle le marquage Ntao, et qui est un marquage exclusivement féminin, qui consiste à faire des micro-incisions dans les zones érogènes de la jeune femme, c'est au moment de ses premières règles, d'y introduire des espèces de petites plaquettes de bois, puis on les retire, ce qui fait un motif en relief sur le corps et qui est censé augmenter le plaisir sexuel. Donc tout ça paraît bel et bon, sauf que c'est à discrétion du mari, en fait. Et le mari va ainsi pouvoir... dès donc les premières règles, récompenser ou priver sa femme, son épouse de ses marques, et donc en fait elle est chosifiée, elle n'est plus considérée comme certainement pas comme son égale, mais même pas comme un individu, mais bien comme une chose, comme la marque de son désir à lui. Et c'est aussi une dimension du tatouage qu'on ne doit pas ignorer, c'est-à-dire que bien sûr que la beauté du tatouage est dans l'expression personnelle, mais
tu parlais du marquage
bien
imposé.
Sûr, bien sûr, du marquage. Par exemple, on oublie que à Auschwitz, les détenus avaient leur tatouage, mais les gardiens aussi. Ils n'étaient pas à la même place. Les gardiens l'avaient sur l'omoplate. Les SS avaient leur groupe sanguin tatoué. Et donc, ça crée une étrange et extrêmement malsaine intimité, un étrange rapprochement entre le bourreau et la victime.
Xavier,
j'ai créé une sorte de malaise.
Non, pas du tout.
J'espère que je ne vous ai pas flingué l'après-midi.
Je voulais en parler aussi. Mais tu parlais de scarifications qui sont censées augmenter le plaisir. La modification qui est l'excision, elle est là au contraire pour empêcher le plaisir. Et à nouveau pour chosifier.
Ah bah, à ce sujet, vous connaissez tous le docteur Kellogg des Kellogg Cornflakes. Bon, ben Kellogg, il faudrait un jour consacrer une table ronde à ce cher docteur Kellogg. Kellogg, dans son sanitarium qu'il avait rebaptisé, il faut dire que Kellogg était médecin, il était docteur en médecine, mais il était membre de l'Église adventiste du septième jour. Et le mélange science et religion, en général, c'est pas très bon parce que ça fait du diagnostic, une sanction morale. Et si vous mélangez morale et diagnostic, ça se passe pas très bien. Et donc, dans le sanitarium du docteur Kellogg, les garçons qui pratiquaient le self-abuse, donc la masturbation, étaient, au pire des cas, il y a même eu castration, mais en tout cas, ils étaient soignés, et les filles étaient excisées à l'acide. Le type que vous avez sur les boîtes des Kellogg Cornflakes, l'espèce de Père Noël habillé en blanc, c'est le cher docteur Kellogg.
Mais c'est l'appropriation du corps, et surtout des corps des femmes.
Xavier Auméjean, est-ce qu'on peut trouver une explication anthropologique à l'importance qu'ont les tatouages pour les êtres humains, c'est-à-dire cet acte d'inscrire quelque chose sur son corps? À quel moment quelque chose qui, on pourrait le croire sans aller plus loin, ne relèverait que de l'apparence, peut avoir une telle importance? On voit bien hein, chez Mélanie cette importance qui les tatouages ont une place fondamentale hein, dans votre vie, on le ressent à ce que vous dites.
Ben, je crois que ça a été très largement et bien évoqué par Sarah notamment quand elle a fait le détail tout à l'heure. Alors, il y a une sorte de synthèse entre le témoignage qui est très touchant de Mélanie et les belles observations de Sarah, qui est les forains. Moi, je suis très attaché au monde des forains et justement entre une sorte d'équilibre entre l'individuel et le collectif parce que les forains sont des nomades. Donc c'est un peu comme des escargots, ils ont leur maison sur eux, d'où les tatouages qui sont très signifiants des forains sont souvent des moments de vie, des choses comme ça. C'est un milieu aussi sur lequel tu as écrit, Mélanie, justement, les forains.
De manière lointaine, on va dire, mais oui.
Justement, oui, anthropologiquement, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire, mais il me semble que la foire, c'est cet équilibre, justement, entre la nécessité de l'intime, du vécu proprement singulier, individuel, et de l'appartenance à un groupe qui s'affirme, les forains.
Avec en plus le fait que c'était souvent dans les foires qu'on trouvait les tatoueurs et tatoueurs itinérants.
Bradbury nous a fait un magnifique texte sur ça, l'homme illustré.
Je vois qu'il est 14h40 et ce serait intéressant, vu qu'on parle d'intimité, de témoignages, ce serait intéressant de ménager un temps assez élevé pour les questions, si vous êtes d'accord. Donc, est-ce qu'il y a...
dernière chose. Pardon. On parlait d'anthropologie. On peut vraiment rapprocher deux peuples, en quelque sorte. On a les Pictes d'un côté... à l'Antiquité et au Moyen-Âge, et on a les peuples du Pacifique d'un autre côté, et les deux sont des marques d'initiation et d'avancement dans la vie. Chaque date importante, la création du nom quand on sort de l'enfance, le passage à l'âge adulte, etc., sont l'occasion d'un nouveau tatouage, d'un tatouage qui est de plus en plus personnel. C'est d'abord le clan, la tribu, puis la famille, et enfin la personne. Voilà.
C'est un bon résumé de l'importance à la fois sociale hein, du tatouage, mais aussi qui relève à l'intimité, et parfois même de l'inexplicable, finalement, sur pourquoi un corbeau, pourquoi une salamandre.
Parce que.
Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Ouf. Oui.
Tout à fait.
Ça a été évoqué hier, par exemple, ce que les Russes appellent l'organisation, la pagre, disons, a deux types de tatouages. Il y a les tatouages hiérarchiques, qui fait que telle étoile sur la poitrine ou tel clocher vont indiquer l'appartenance, le grade dans la hiérarchie. Et il y a les tatouages de prison, qui sont très distincts, hein, les uns des autres. Et les tatouages de prison, alors qu'il va de soi que l'organisation peut faire entrer ce qu'elle veut dans les prisons, et donc du matériel de pointe, c'est pas le cas intentionnellement. C'est-à-dire que les tatouages sont faits à partir de lames de rasoir et de talons de chaussures brûlés et dilués dans de l'urine pour obtenir de l'encre. Ce qui fait que la douleur fait partie de l'expérience du tatouage et elle est occasion de démontrer sa virilité, par exemple. Mais il y a douleur sans souffrance. C'est-à-dire que j'imagine, j'en sais rien, je ne suis pas tatoué, mais quand on est tatoué, il y a une douleur plus ou moins tolérable, mais il n'y a pas de souffrance. La souffrance, c'est la douleur psychique, en fait. Si vous tapez sur le doigt avec un marteau, vous avez de la douleur, mais ça ne va pas vous pourrir votre vie. Vous n'allez pas commencer à être dépressif parce que vous êtes tapé sur le doigt avec un marteau. Donc il y a douleur dans le tatouage, mais je ne pense pas qu'il met là... Forcément, je me tais. Non,
je suis assez d'accord. C'est très bien dit, en fait, douleur sans souffrance. Il y a un côté un petit peu rite de passage parce que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Mais on me proposerait de le faire en supprimant totalement la douleur. Je ne suis pas sûre que je voudrais, parce qu'elle fait partie aussi de ce qui fait qu'on s'en souvient. Mais c'est une douleur qui est voulue, qui est modérée quand même. Bon, ça dépend des endroits. Et effectivement, sans souffrance, ça, c'est très justement dit, je trouve.
Un tatouage se mérite, en quelque sorte, au travers de la douleur. Plus il est grand, plus il fera mal. Ça dépend aussi de l'endroit où il est fait. Plus il est près de l'os, plus il fera mal. Plus il est dans une zone extrêmement innervée, plus il fera mal. Il y a des couleurs qui font plus mal que d'autres. Le rouge, par exemple, fait beaucoup plus mal que le noir. Quand on dessine le tatouage, ça fait pas très mal. Par contre, quand on va commencer à colorer, à remplir les blancs, là, le geste est différent. Mais en même temps, les outils de tatouage ont évolué. Au départ, bon, il y a en Polynésie ou au Japon, c'est avec des bambous. Et puis il y a les machines à tatouer. Les premières machines à tatouer, c'était juste des pics en ligne. Et puis sont apparues toutes sortes de formes, comme des formes de pinceaux, pour faire différentes choses en tatouage, pour faire différents traits, pour faire de la colorisation. Donc tout est différent. Et les douleurs sont différentes selon les encres, selon les moments et selon les zones.
Une douleur psychologique possible, qui soit psychologique vis-à-vis du tatouage, c'est peut-être aussi le regret. Il y a des personnes qui se sont fait tatouer et ressentent, 10 ans plus tard, un profond regret. Comment on peut expliquer ce regret ?
D'abord, il y a les possibilités de s'en débarrasser. On peut, au laser, effacer un tatouage. On peut, c'est ce que moi j'ai fait, recouvrir un tatouage. Mon premier tatouage, je l'ai fait à la mort de mon père. Et je l'ai fait dans un endroit absolument pas hygiénique et il a été très mal fait et il a très mal vieilli. Et j'ai attendu d'avoir l'idée exacte de ce que je voulais faire. Et j'ai attendu, en fait, en quelque sorte, un autre deuil pour me refaire tatouer, pour recouvrir celui-là. Le regret, souvent, c'est quand on... C'est quand on se tatoue des mots. C'est souvent quand on a Régine pour la vie, Martin je t'aime, et que Martin est parti avec la voisine, Régine a viré sa cutie et a divorcé et pris tout l'argent de son mari. Et tout d'un coup, le a Régine pour la vie, on le regrette beaucoup. Et c'est souvent cela qu'on regrette. Ou ceux qui ont mal vieilli, ou ceux qui, la peau qui s'est détendue, le corps qui a changé.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas forcément sur le tatouage. Hein. La thématique, c'est tout ce qui est sur et sous la peau. Il y a une question juste ici.
Merci. Alors j'avais une question. Imaginons que le tatouage n'existe pas, n'existe plus, enfin n'a jamais existé. À votre avis, quel pourrait être le mode de marquage durable qui fédère un maximum de
branding, personnes. Le branding, le fer rouge, c'est l'un des plus anciens. C'est la marque de l'infamie. C'est celui qui a été, qui est systématiquement utilisé justement pour marquer, comme on marque dans certains gangs, comme on marque, on voit ça dans la fantaisie urbaine par exemple. Les loups-garous se marquent au fer rouge. C'est parce que et les gangs de motards utilisent aussi ça parce que c'est une autre douleur. C'est une douleur très forte, très intense, et qui dure longtemps. La cicatrisation d'une brûlure est beaucoup plus douloureuse que celle d'un tatouage.
S'il y a d'autres questions.
Petite question concernant les tatouages de nos jours. Vous avez dit que c'était fait sur un coup de tête. Je pense que c'est aussi une question de mode, comme vous l'avez précisé. Il y a une question d'ornement et d'appartenance à la société, en fait. C'est une question d'avoir la classe, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus regretter un tatouage qui est fait sur le cou qu'un tatouage qui est réfléchi. Et du coup, l'histoire de l'ornement du corps, elle n'a plus du tout sa place, puisque c'est une question de mode, je pense. Je ne sais pas trop.
Mais moi, j'entends beaucoup cet argument de la mode et je me demande dans quelle proportion, en fait, c'est fait sur un coup de tête ou autre, ou dans quelle... Je ne suis pas sûre que quelque chose d'aussi extrême, on le fasse tant que ça sur un coup de tête. J'en sais rien, en fait, je me pose la question. Mais, ouais.
Je pense qu'un petit tatouage peut être fait sur un coup de tête.
Parce que la mode va de plus en plus vers des grands traits graphiques, voilà. Ce qui n'était pas le cas avant,
les
oui.
Les grands tatouages demandent à être réfléchis. Parce que c'est aussi des heures de tatouage. C'est que ce soit 2 heures par 2 heures ou 3 heures par 3 heures, ça prend du temps et ça prend de la douleur. Et c'est espacé parce qu'on fait la première couche et puis on doit attendre plusieurs semaines avant que ce soit cicatrisé pour pouvoir continuer. Donc c'est un investissement dans le temps et dans l'argent aussi. Donc oui. Un grand tatouage est généralement beaucoup plus réfléchi qu'un petit flash traditionnel.
Après, je me pose une question sur le regret. C'est qu'effectivement, pas mal de gens regrettent pour diverses raisons qu'on a évoquées et font recouvrir ou suppriment ou autre. Une chose qui m'étonne et dont on se rend pas forcément compte de l'extérieur, c'est qu'au bout d'un moment, une fois qu'il est là, il fait partie de notre corps. C'est-à-dire, moi, typiquement, je vois une photo de moi avant où je pense à une amie dont j'ai vu apparaître les tatouages. Je vois une photo d'elle avant. Je l'ai connue avant. Je ne la reconnais pas. Il y a un moment donné, ça fait partie de nous. Et en particulier, je ne peux même pas concevoir qu'un jour, ma peau n'a pas été comme ça. Et comme je disais, même si je vois des amis et je le vois sur des photos avant leur tatouage, ça fait tellement partie de la personne que... Et du coup, cette notion de regret, je peux la comprendre intellectuellement, mais elle m'étonne en même temps. Tout dépend de l'histoire qu'on a avec.
Et je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi, il n'est pas visible puisqu'il est à l'arrière de ma hanche. Mais je sais exactement, je sens quasiment physiquement où il est. Quelle est la place qu'il prend, là où il touche tel os, tel morceau du corps. Je sais exactement... où il est, où il s'enfonce dans ma peau. J'espère que les
gens vont bien sortir. Vous n'envisagez pas un tatouage visible un jour ?
Si. Je suis en train d'y réfléchir. D'accord. Mais j'ai plusieurs projets, mais certains sont un peu extrêmes, non pas dans la taille, mais dans la douleur que cela peut... J'aimerais beaucoup, par exemple, me faire une jarretière. Mais l'intérieur de la cuisse, ça me fait un peu peur.
Il y avait une question de...
Pardon, j'ai plus vraiment de voix. La question justement sur le fait de regretter ou pas un tatouage, et qu'on parle justement pas que de ça comme marque, l'importance d'un piercing en fait. La facilité justement sur un regret ou effacer quelque chose comme ça avec un piercing va pas du tout être la même qu'avec un tatouage. Là, c'est beaucoup plus facilement enlevable en fait. Donc, dans ce qu'on veut aussi, il peut y avoir cette distinction, choisir entre un piercing ou un tatouage, par exemple. On va choisir la modification, le type de modification sur lequel on va vouloir aller.
Oui, d'autant que le piercing se fait généralement pour les mêmes raisons que le tatouage, pour marquer un moment, pour marquer une relation, pour marquer un événement, et, où qu'il soit, ou pour marquer... des choix de vie. Je parle entre autres des piercings de BDSM qui sont assez extrêmes, Mais à nous, vous avez tout à fait raison, ce sont des choses qui peuvent être tout à fait temporaires et qu'on peut enlever et qui peuvent même se refermer.
Oui, est-ce que le tatoueur a un rôle à jouer un peu comme un chirurgien esthétique? Est-ce qu'il y a un dialogue avec le tatoueur pour cerner la demande?
Là, moi, je suis en plein dedans, donc je peux en parler d'autant plus. Ça, je dirais que ça dépend des cas de figure, ça dépend où on s'adresse. Mais je trouve de plus en plus, il me semble que la mode va vers des tatouages qui sont très graphiques, comme je disais. Et on va de plus en plus à valoriser le tatoueur comme artiste. C'est-à-dire qu'on va pas juste choisir le tatoueur qui est au coin de la rue. On va aller sur Internet, regarder, tiens, un tel fait tel style, tiens, j'aime bien son dessin. Moi, typiquement, ce corbeau, je l'ai choisi parce que j'ai vu le dessin de ce tatoueur et je sentais qu'il pouvait faire quelque chose de beau. On y est allé, il m'a dissuadé de faire ce que je voulais, il m'a orienté plus vers ça. On nous demande souvent d'apporter une image qui va servir, donner des points de, enfin, des, comment dire, qui va donner une idée un peu de l'ambiance qu'on recherche. Après, certains vont tendre plus vers une préparation en amont et d'autres, ça va être beaucoup plus spontané. On sait aussi à qui on s'adresse en fonction de ça, en fait. Mais il me semble aussi que dans la mode, on va de plus en plus vers ça, vers le tatoueur vraiment comme artiste avec qui on a un échange. Et comme, fait penser à un échange qu'on a eu en préparant, ça m'a fait penser à demander à un illustrateur la couverture d'un livre. On lui demande de faire une interprétation de quelque chose qui nous est intime, en espérant qu'on a choisi la bonne personne qui va réussir à le rendre. Et je me suis aperçue que pour moi, c'est la même émotion, découvrir une couverture et un motif de tatouage. Il y a vraiment, on demande à quelqu'un, voilà ce que je voudrais, aide-moi à donner forme.
Et alors, ça dépend du tatouage, parce qu'il y a des catalogues. Les tatoueurs ont des catalogues avec un certain nombre... Il y a les flashs classiques, les flashs anciens de certains vieux tatoueurs, comme je parlais des flashs Brandt, où il y a tout un tas de dessins qui existent depuis très longtemps, l'hirondelle, la rose, l'encre, des choses comme ça. Et ça peut se faire sans une véritable conversation avec le tatoueur. Moi, je triche. Mon tatoueur est un ami. Donc, on a discuté, on a réfléchi, il a fait le dessin par rapport à moi, par rapport à nos discussions, et il m'a tatoué en échange de bouquins. Et donc, c'est vraiment, c'est un acte à la fois symbolique, puisque c'est l'araignée, la tisseuse, qui est ce que je suis, avec ses mandibules qui sont des plumes, et un tatoueur qui est écrivain et qui a incorporé tout cela dans le dessin qu'il a fait, dans le travail qu'il a fait sur mon corps et dans la récompense qu'il a eue de son travail. Mais je trouve toujours beaucoup plus sain d'avoir une vraie conversation avec son tatoueur et de créer soi-même, en collaboration avec lui ou elle, l'image qu'on va inscrire sur sa peau, plutôt que de choisir sur catalogue sans réflexion vraiment personnelle.
Ok, s'il y a une question tout au fond.
Oui, une petite question. Donc, c'était pour savoir quand on vient d'avoir... Je ne suis pas tatouée, je n'ai pas levé la main tout à l'heure. Pour savoir quand on vient d'avoir son tatouage, est-ce qu'on a un sentiment d'étrangeté ou est-ce qu'on le reconnaît au moment même où on vient d'être tatouée, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sentiment particulier?
Je crois que ça dépend des personnes parce que je me souviens qu'une amie m'avait posé la question en me disant « Est-ce que toi aussi, tu as l'impression qu'il a toujours été là ?» Et je me souviens que ce corbeau, quand je l'ai eu sur le bras, pendant un moment, j'ai eu... La première fois que j'étais dans un festival comme ça, je retire ma veste et je le montre à tout le monde en quelque sorte, je me suis sentie toute nue, c'était étrange. Alors maintenant, j'ai l'habitude. Celui-là, j'ai eu un sentiment d'étrangeté parce qu'il était grand. Et d'autres personnes disent, ce que je disais tout à l'heure, ça a toujours été là. Je crois que pour le coup, ça dépend énormément de l'histoire qu'on a avec, mais on peut avoir les deux. Moi, j'ai connu les deux, effectivement.
Et quand on vient juste, quand on sort de chez le tatoueur, on le sent. On sent très 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 bien son tatouage parce qu'on a mal. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a dû subir une certaine douleur.
Et parce qu'il pèle pendant plusieurs jours.
Parce qu'il pèle pendant plusieurs jours, parce qu'on sent encore tous les traits des aiguilles qui ont traversé la peau. Et donc il y a vraiment, c'est un moment qui reste. Et le temps de la cicatrisation, les premiers jours, ça fait mal.
On ne peut pas forcément porter n'importe quel vêtement dessus aussi. Moi, le synthétique, je ne pouvais pas.
Ah non, Il vaut mieux porter du coton, il vaut mieux porter des tissus naturels et poreux qui vont conserver la crème cicatrisante qu'on doit mettre tous les jours, matin et soir, sur le tatouage pour qu'il puisse bien cicatriser et le mettre en valeur en quelque sorte.
J'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez l'impression que dans les premiers temps après un tatouage, il modifie un petit peu votre comportement ? Je pose la question parce que moi-même, je suis tatouée et j'ai remarqué que de l'extérieur, on remarquait beaucoup plus souvent mon tatouage les premiers temps après que je l'ai fait faire que maintenant où il a l'air d'être complètement intégré à ma manière de me tenir. Je ne sais pas si ça a modifié quelque chose, mais voilà.
Moi, je n'ai pas souvenir que ça me l'ait fait, à part, comme je disais, cette impression de quelque chose de presque trop intime pour être montré. J'ai vraiment souvenir du moment où je retire ma veste et je me dis « mais tout le monde me regarde comme si j'étais à poil ». Je n'ai pas souvenir du comportement, mais c'est comme ce qu'on disait sur l'étrangeté ou pas, je pense que ça dépend beaucoup du rapport, peut-être aussi de l'emplacement où il est, je ne sais pas.
Sans doute, puisque comme le mien n'est généralement pas visible, je n'ai pas cette sensation de nudité, je n'ai pas, et c'est quelque chose que je peux montrer. Je peux choisir à qui je le montre. Parce que c'est la marque de mon identité. Et c'est une marque de protection. C'est un geste magique. En tout cas, chez moi, c'est un acte magique que d'avoir inscrit cette araignée sur ma peau. Et donc, ça reste extrêmement intime.
On va devoir donc conclure. Merci beaucoup d'avoir été aussi attentif durant cette heure autour de cette thématique. Merci.